Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Damien Leguet.
Dans le cadre d'une série que Canal Académie fait autour de la crémation, nous voudrions avoir un éclairage historique sur le catholicisme et la crémation, et en particulier sur le décret du 5 juillet 1963 qui tolère la crémation pour les catholiques. Il est dit que désormais l'Église, je cite, n'est pas opposée et ne s'oppose pas à la crémation. Philippe Levillain, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes professeur émérite à Paris 10, historien, spécialiste de l'histoire religieuse contemporaine et en particulier de Vatican II, des évêques français et de la papauté. Vous avez dirigé le dictionnaire historique de la papauté en 2006 et votre dernier livre, si j'ai bien compris, n'est autre que Rome n'est plus dans Rome, donc Monseigneur Lefebvre et son Église. Et par ailleurs, vous êtes depuis le 19 décembre 2011 membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Alors, je voudrais avec vous que nous puissions éclairer effectivement ce décret de 63, la position de l'Église catholique sur la crémation. Faisons donc un petit détour, si cela vous convient, par le décret donc du 19 mai 1886, où, sous Léon XIII, il est dit, donc décret 19 mai 1886, « Est-il permis d'ordonner que son propre corps ou ceux d'autrui soient brûlés ?» Réponse confirmée par le souverain pontife, « Non. » Et Piotr Kuberski, donc, qui vient d'écrire un livre sur christianisme et crémation, dit que c'est la première fois, en 1886, que le magistère se prononce sur ce rite mortuaire. Que faut-il penser donc de cette novation et de cet interdit majeur posé en 1886 par Léon XIII?
Mais ceci, vous savez que tout qui ne dit mot consent. Par conséquent, Léon XIII intervient à un moment donné où, effectivement, les créations allaient de pair avec une nouveauté dans l'Occident chrétien qui était les enterrements civils, notamment en France. Les enterrements civils signifiaient deux choses. D'abord qu'on ne passait pas par l'Église, et ensuite qu'il n'y avait pas d'inhumation avec quelques rites préalables, signifiant tout de même qu'il s'agit d'un passage, comme on dit dans l'Ecclésiaste, qui signifie qu'il faut symboliser le passage du paraître au disparaître. Bon. Alors, les enterrements civils se diffusent largement en France, de même que se diffusent les baptêmes civils, et aussi dans d'autres pays, moins en Italie, qui est un pays de terre chrétienne extrêmement traditionnelle. Mais avec les enterrements civils se diffuse l'idée qu'on peut incinérer un corps, qui d'ailleurs est une façon qu'il faut le conserver, selon des rites étranges que le pape ne signale pas dans ce décret, mais qui consiste à mettre le défunt dans une urne et à garder l'urne sur sa cheminée, et par conséquent à faire un objet sacré, d'une certaine façon, qui signifie la présence continue du défunt, non pas du dauphin, à travers ses cendres. La notion de cendre est tout de même familière à l'Église. Il ne faut pas oublier tout de même que le mercredi saint, on vous rappelle, en vous faisant le signe de la croix, si on est pratiquant, avec le buis brûlé de la Pâque précédente, sanctifié à la Pâque précédente, que tu es poussière et tu retourneras en poussière, et in pulverem reverteris. Donc il y a là quand même un signe de la mort qui attend naturellement la résurrection de la Pâque qui suit trois jours après. Léon XIII prend cette décision à un moment donné où il essaye de codifier ce que sont les rites en train de rester très vivant, en même temps de disparaître devant la montée de la laïcité, notamment en France, dans certains pays d'Europe, ou même vis-à-vis du monde protestant, d'affirmer que le corps est fondamental dans sa liaison entre le corps et l'âme, qui d'ailleurs est une théorie constante. Jean-Paul II, dans sa catéchèse sur le corps, qui ne sera jamais publiée, mais qui donnera ensuite quelques articles, puisqu'il devait la faire au moment de son élection, mettra en évidence la fusion intime de l'âme et du corps. On ne peut pas séparer le corps et l'âme, et ça touche à un point fondamental très discuté du credo, à savoir la résurrection des corps glorieux, qui est un des points sur lequel, avec le temps, le scepticisme s'installe et sur lequel il y a le plus de discussion. Corps glorieux veut-il dire corps à l'identique? Veut-il dire corps qui est, si je veux dire, lavé de toutes les cicatrices qu'il porte avec les marques du temps? Veut-il dire une sorte de transparence, comme on pense pour le corps du Christ appartenant simplement à la vue possible pour les disciples comme ceux d'Emmaüs? Donc il y a toute une discussion de type théologique sur les rapports entre l'âme et le corps qui datent de très longtemps. Il faut bien rappeler quand même que Lucrèce, dans le De Natura Rerum, explique au titre de pédagogie à ses lecteurs que quand le corps est le corps du défunt, n'est qu'une sorte de relief et qu'on n'a pas à craindre la mort, puisqu'au fond, on se plaint de la mort parce qu'on est à côté de son corps, en se lamentant sur son corps, alors qu'il n'y a pas de raison, puisqu'il n'y a plus rien, et que donc c'est une illusion que de se plaindre mort. C'est un débat qui court à travers tous les sceptiques de la philosophie antique, et qui au Moyen-Âge, naturellement, relève de l'interdit, puisque le corps est sacré. Il est sacré parce qu'il est baptisé, et par conséquent, c'est un corps qui peut être ensuite un corps saint. Et on ne peut pas imaginer les saints sans corps. Il faut donc qu'il y ait, si je veux dire, à travers le corps que l'on touche, le rituel de la communication, de la médiation et de la grâce. Léon XIII prend donc ses dispositions au moment où le monde est en train quand même de changer de mœurs et où le rituel funéraire évolue. C'est donc un non catégorique qui, d'ailleurs, je dirais, correspond tout de même à la mentalité fondamentale du monde en général, pas seulement chrétien, mais dans les sociétés rurales, l'idée d'inhumer quelqu'un à l'époque est une chose impensable. La franc-maçonnerie elle-même, qui est condamnée par le pape de Humanum Genus, est très contre le principe de la crémation. Il y a un respect du corps qui, je dirais, inhérent à la nature humaine. Et donc, l'idée de la crémation est considérée comme un irrespect, une façon de néantiser le corps, et par conséquent, du même moment, de laisser l'âme non pas s'échapper, comme dans l'enterrement du conte d'Orgaz du Gréco, où on voit l'âme sur la gauche en haut s'échappant sous la forme d'un ange, mais au contraire, considérer que tout est détruit, et que donc il n'existe rien, c'est la mort absolue. C'est une étrange chose encore pour dire ceux qui ne sont pas favorables à la crémation et qui sont pour autant non-croyants. Le plus grand étonnement sur la crémation est venu en France, d'une date que je me souviens très très bien, qui était l'enterrement du grand maître du Grand Orient, à savoir Michel Barouin, qui a été à la fois inhumé religieusement à l'église de la Madeleine et qui ensuite a été incinéré et déposé ensuite ses cendres, je saurais dire dans quel cimetière, si c'est au cimetière Montparnasse ou si c'est au Père-Lachaise et peut-être ailleurs. Il y a eu des étonnements en disant comment est-ce qu'on peut faire une messe pour célébrer à la mémoire du défunt, comme on dit en même temps, l'incinérer. Or, se sont aussi ajoutées des considérations pratiques qui est le manque de place dans les cimetières et le déshonneur qui affecte beaucoup de morts de tombes qui n'est pas entretenu. Donc on a présenté ça comme une commodité. Mais la commodité n'est pas la raison pour laquelle, ensuite, dans l'intercession, car le décret Decadeverum Crematione intervient au moment donné où il n'y a plus de pape, et où Paul VI n'est pas encore élu, et où Jean XXIII vient de disparaître.
Alors venons-en justement, vous avez raison. Donc le deuxième moment, qui est le décret donc, du 5 juillet 1963, dont vous venez de parler à l'instant, qui lui change fondamentalement la donne, et on passe donc d'un régime qui est un régime d'interdiction qui est clair en 1886 à un régime de tolérance, non approbation, mais tolérance. Alors expliquez-nous pourquoi est-ce qu'effectivement il y a eu, en un espace de temps relativement restreint, un tel changement pour l'Église catholique, pour le magistère, sur cette question du corps et du corps crématisé.
Mais il y a une évolution qui tient à celle des choses que j'ai répétées tout à l'heure, à savoir qu'effectivement on se rend compte que les cimetières sont de plus en plus ou mal entretenus, ou, je dirais, difficiles à multiplier. Il y a une tradition rurale des cimetières, comme vous savez, l'église est à côté du cimetière, le cimetière est à côté de l'église, comme vous voulez, mais il y a des tombes qui sont désaffectées. N'oublions pas que le Père Lachaise, dans les années suivantes, dans les années 90, proposera de restaurer des tombes, qui sont des tombes magnifiques et artistiques, en proposant à ceux qui le font d'avoir une déduction totale du montant de la réparation de leur impôt sur le revenu. C'est quand même une chose que tout le monde ignore, et qui peut donner un type de placement artistique qui vaut largement certaines autres déductions que l'on obtient par ailleurs, mais qui sont moins. Non, ce qui existe, c'est une réflexion très profonde sur le corps, et sur l'idée que la séparation du corps et de l'âme ne stipule pas forcément que le corps soit un corps attaque. Seul le corps glorieux est un corps attaque. Mais on sait très bien, après l'ouverture des tombes, qu'il y a une inégalité flagrante devant ce qu'on peut appeler les reliefs, ou les reliques, si vous voulez, les reliques veut dire ce qui reste, et qu'il y a des tombes intactes, on en trouve même des siècles très très lointains, et des tombes qui sont au contraire dévastées par l'humidité, par tout ce que l'on veut, par les conditions dans lesquelles elles ont été sinon embaumées, du moins mises en terre. D'ailleurs, l'Église préfère le mot « inhumé » au terme « enterré », qui d'ailleurs veut dire la même chose. Mais de même que l'Église préfère le mot « obsèque » au mot « enterrement », et que pour les grands de ce monde, on parle de « funérailles ». Donc, tout ceci a un sens, mais « funérailles » veut dire « service funèbre ». Donc, la faculté qui est donnée n'est pas une faculté recommandée, c'est une latitude. Cette latitude va de pair avec le soulagement qui est donné aux chrétiens de pouvoir disposer d'un corps qui est ensuite dispersé selon un autre rituel, car un rituel remplace un rituel, qui s'appelle le jardin des souvenirs, où l'on jette les cendres, prennent un arbre, etc. Vous savez, il y a tout un tas de rites. On peut jeter les cendres sur la grande voie qui mène à Angkor, on peut les jeter sur le forum, etc. Il y a une autre symbolique. C'est-à-dire que l'Église admet, si vous voulez, que l'âme a une entité en elle-même qui n'est pas liée au corps, et que la puissance créatrice du divin est une puissance qui est aussi une puissance recréatrice. Ce qui veut dire qu'elle n'a pas une conception du corps qui est une conception à l'identique, si je veux dire, mais une conception qui est celle du corps glorieux, dont je parlais tout à l'heure, qui est une conception, je dirais, de la visibilité spirituelle, et non pas corporelle, de ce qu'est le corps du chrétien, et peut-être du non-chrétien, car on a aussi beaucoup évolué sur le problème, je dirais, interprété notamment par le jugement dernier de Michel-Ange, ou bien à Orvieto, dans les fresques de Signorelli, de la résurrection des morts avec les bons et les méchants à gauche et à droite. Donc ça ne veut pas dire pour autant que l'Église et le décret de juillet 63 méprisent le corps. C'est une faculté de relativisme par rapport, je dirais, au fétichisme du corps.
Je me permets juste de vous lire un des éléments, effectivement, de ce décret. Donc, l'incinération du corps ne touche pas à l'âme et n'empêche pas la toute-puissance de Dieu de rétablir le corps. Mais ce régime-là, donc ce nouveau régime, alors expliquez-nous un peu le contexte qui a laissé supposer que quelque chose a changé, qu'on est passé d'un interdit absolu, qui était quand même celui effectivement que nous avons vu juste avant, à une tolérance qui change fondamentalement la donne. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Je crois que l'Église est ouverte à ce que j'appellerais l'anthropologie du sacré. C'est-à-dire qu'elle abandonne la thèse sur laquelle la liaison l'âme et le corps est absolument indissociable, et qu'elle réfléchit sur les grandes données anthropologiques du XXe siècle, à savoir que le sacré passe plutôt par le symbole que par la réalité. Et donc, le symbole, c'est le corps qui peut être le corps incinéré, réduit à sa plus simple expression, mais que, pour autant, le corps reste, je dirais, dans la vivacité de ce que représente le souvenir, et d'autre part, au-delà du souvenir, la permanence de ce que représente la cendre, si vous voulez, puisque de toute façon, la cendre fait partie, je dirais, des sacralités, comme on dit, de l'Église, du rapport entre la dévotion et le visible, et le mystère aussi. Donc, il résulte une évolution qui veut dire que l'Église est ouverte, ce qu'on peut appeler aux sciences sociales et aux sciences humaines. Et notamment, elle est beaucoup plus ouverte à l'anthropologie du sacré qu'elle n'est à la sociologie, qui n'est pas une science sacrée. Il y a une anthropologie du sacré, qui est d'ailleurs aussi vraie chez Lévi-Strauss qu'elle peut l'être chez Mauss, c'est-à-dire que, indiscutablement. Donc, c'est une évolution qui, d'ailleurs, témoigne certainement de pressions qui sont faites sur l'Église à la même époque, car le décret, bien que pris entre deux sessions du Concile, oui, est un décret qui vient de loin. L'Église ne se décide pas comme ça du jour au lendemain sur une question aussi importante. Mais il est évident aussi qu'il n'est pas question qu'un pape soit jamais incinéré, pour l'instant. Bon, il y a le rituel qui s'attache à la conservation du corps. Mais il y a cette prise en charge de ce qui représente, je dirais, pour l'ensemble des vivants, la possibilité de disposer de son corps, sans pour autant, je dirais, disposer de son âme. Et donc, on accepte, je dirais, non pas la cession, mais en tout cas, une disjonction momentanée avec, je vous l'ai dit avant que vous citiez le texte, c'est la même chose, avec le pouvoir divin de recréation. Donc, la résurrection, c'est une recréation. D'une certaine façon, la résurrection du Christ, préfigurée par l'apparition par celle de Lazare, qui est une réanimation, alors que la résurrection du Christ, c'est une résurrection, ce qui n'est pas pareil. Là, il n'y a pas réanimation, mais la possibilité d'une recréation qui est d'une deuxième naissance. C'est ça.
Mais est-ce qu'on peut considérer que ce n'est pas une autorisation, donc c'est bien une tolérance, parce que dans le même décret, il est précisé, et je cite les éléments du même décret, que l'Église a toujours voulu encourager la pieuse et constante coutume d'ensevelir le corps des fidèles, et que l'esprit de l'Église, je cite toujours ailleurs, est étranger à la crémation. Et donc il y a quelque chose qui est étranger à la crémation, il y a quelque chose que l'esprit de l'Église est plutôt du côté de l'inhumation, mais qu'il y a un effet de tolérance.
Tout à fait, mais je crois que les deux choses ont de pair. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit, c'est un accommodement. Ce n'est pas une recommandation. Et l'accommodement est lié à ce que j'appellerais, pour le coup, un décret qui va dans le sens de la modernité de l'Église. Ce qui ne veut pas dire le modernisme, la modernité de l'Église. C'est une façon de dire qu'on est dans son temps et qu'on n'exclut pas. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas d'excommunication de ceux qui se font incinérer. Mais il y a une compréhension de ce que peut être le vœu de la famille, même de la personne. Il y a aussi la prise en considération d'une chose très importante, c'est que certaines personnes, ayant vécu une mort absolument terrible de souffrance et de douleur, souhaitent, si j'ose dire, le requiem de leur corps parce qu'il a été blessé, et ne veulent pas, si j'ose dire, être inhumés en portant les cicatrices d'une vie douloureuse. Donc il y a une sorte de purification. Et il faut bien voir ça aussi, l'Église considère que le feu est aussi une forme de purification, aussi bien le feu de Pâques que le feu de la Pentecôte. Ce n'est pas reconnu, puisqu'évidemment, ce serait aller trop loin et qu'on ne peut pas recommander l'incinération. Mais implicitement, il est dit qu'il y a une forme de purification. Mais l'Église n'admet pas cette purification. C'est pour ça qu'il n'a que tolérance, dans la mesure où c'est le jugement dernier qui purifie. Et c'est l'expiation des fautes qui reste encore aujourd'hui un phénomène du dogme. On n'est pas encore arrivé, au moment donné, au moment du salut universel. Mais il y a ça aussi. Mais c'est une forme de purification qui est implicitement admise comme une technique et une commodité pour désengorger, si vous me permettez l'expression, les cimetières. Mais on sait aussi que c'est une forme de purification. Simplement, l'Église ne recommande pas l'incinération. Mais elle recommande tout de même, alors elle ne le dit pas. Mais il est convenu qu'il est meilleur qu'il y ait un service religieux avant, ce que d'ailleurs, je dirais, implicitement aujourd'hui, quand on voit l'état de l'Europe en termes de déchristianisation, beaucoup de prêtres ne sont même pas capables de servir un service religieux, si je veux dire, en employant un mot redoublé. Donc c'est une commodité. Ce qui est vrai aussi, c'est que si il y a de grands enterrements, de grandes personnalités telles celles que je citais à propos de l'incinération, il y a aussi beaucoup de familles pour qui c'est une façon d'aller assez vite et de pas se préoccuper de ce que représentent les frais et, d'autre part, la mobilisation d'un enterrement. Quoique une incinération, ça coûte assez cher.
Mais, dernière question, les flammes, le feu, étaient plutôt dans l'imaginaire chrétien associé à l'enfer, à l'endroit où on rôtissait dans les flammes éternelles,
c'est
plutôt,
alors, c'est à la fois purificateur. L'ardeur de la souffrance qui brûle, et en même temps, c'est la purification de la souffrance qui a trop brûlé. C'est les deux à la fois. Par conséquent, le feu est une notion ambiguë, puisqu'à la fois, il purifie et il délivre. Voilà. C'est les deux choses qui vont ensemble et qui créent la raison pour laquelle il y a autorisation, mais pas encouragement. Mais il y a de plus en plus d'incinération, comme vous savez, chez Absolument. Les chrétiens, puisqu'il y a toujours le phénomène de l'urne qui est obligatoire, que l'on remet ensuite à la famille, ou bien elle fait disperser les cendres, qui est d'ailleurs une autre forme de sacralité. Si on remet au vent, ce qui, au fond, a été créé, de même que, si vous voulez, comme le pollen crée les fleurs.
La Philippe Levillain, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous, et merci de nous avoir éclairé comme ça sur ces deux décrets qui ont marqué l'histoire de l'Église sur la question, effectivement, de la crémation. Merci bien.
Merci à vous.